Allez, on marche encore une petite heure.
Oui. Ouais, tout le monde, on est prêts.
Allez, où?
C'est parti.
Les moustiques se sont envolés, mais notre curiosité a été piquée. Alors nous avons demandé à Eric Orsenna de rester encore une heure pour évoquer le parcours de cet infatigable voyageur, ses enquêtes à l'écoute des évolutions de nos sociétés, son attachement tout particulier au continent africain qui lui a inspiré deux grands romans, Madame Ba et Mali au Mali, son goût pour la navigation qui l'ont conduit à prendre la mer avec Isabelle Autissier jusque dans les glaces de l'Antarctique. Qu'est-ce qui peut bien pousser un académicien à se lancer dans toutes ces aventures ? Nous allons le lui demander, puisqu'il a accepté de rester.
Les aventures de Tintin, d'après Hergé.
Bonjour, je m'appelle Tintin. Mes amis et moi avons vécu des aventures aussi extraordinaires que nombreuses. En Afrique, sur tous les océans, et même au Sahara avec mon ami le professeur Tournesol.
Tintin, à qui nous avons consacré un bivouac entier il y a quelques semaines. On y revient pour ouvrir cette deuxième partie d'émission avec vous, Eric Orsenna. Vous avez, paraît-il, dévoré, étant petit, les albums de Tintin. Est-ce que c'est ce héros de bande dessinée qui vous a donné aussi le goût du voyage ?
Ça, c'est sûr. C'est, je me disais comment... C'est pas possible de pas connaître le Pérou, c'est pas possible de pas aller au pays du lotus bleu, c'est pas possible d'aller en Arabie, il faut absolument que je voie tout ça. Ouais. Donc ça, c'était la première, ça me fascinait. Et puis, il y avait quelque chose qui était formidable, qui s'appelait le catalogue de Manu France. C'était de la vente par correspondance, donc le catalogue de tout ce qui était nécessaire pour vivre au loin. Et donc, tous les Français qui vivaient au loin, ils achetaient par correspondance. C'était à Saint-Étienne qu'on fabriquait tout ça. Et il y avait tout. Il y avait les tentes, il y avait les moustiquaires, il y avait les fusils, les coutelas, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ça. Je passais mon temps, avant 10 ans, à préparer les expéditions. C'est-à-dire, je passais des fausses commandes à cette Manu France en me disant, ben voilà, je vais monter une expédition. Ouais. Alors, je disais, tiens, j'aurai 3 porteurs, j'aurai 5 porteurs, voilà où je vais aller. C'est-à-dire, j'ouvrais les atlas et je me disais, tiens, cette fois-là, je vais aller sur le long du lac Victoria. Donc, je vivais en rêve complètement parce que je m'ennuyais un peu. Ouais. Ma famille était très affectueuse, mais j'avais envie d'aller ailleurs, de l'autre côté.
Ouais. Vous n'étiez pas d'une famille de voyageurs particulièrement ?
Pas du tout. Ma mère a très peu voyagé, elle a été en Russie un peu, mon père a été terrorisé par les voyages.
Ouais. Par contre, il vous lisait des histoires de pirates, voilà, de frégates.
Ma mère me racontait des histoires d'histoire de France, parce qu'elle était monarchiste, et donc elle adorait les rois, les reines et tout ça. Moi, ça m'intéressait, mais moyen. Ça m'intéressait plus les histoires de mon père, parce que mon père était officier de réserve dans l'aéronavale. Donc, il me racontait l'histoire de mer, mais lui, il n'a jamais tellement voyagé. Mmh. Et donc, personne, au fond, dans ma famille, n'a énormément voyagé. Ce virus-là, moi, c'est assez fou, quoi. L'autre jour, en rentrant du Cambodge, j'ai calculé que j'ai dû aller dans 99 pays. Donc, il faut que je fasse encore un petit effort.
Ah oui,
il me reste la moitié à peu près des pays du monde.
On va bien en trouver un centième pour faire un chiffre rond quand même.
Voilà.
Il y avait aussi, je crois, Joseph Kessel, Albert Londres. Tout ça, c'était des noms qui...
Alors ça,
qui
c'est un peu après, parce que ça, c'est avant 10 ans.
Évidemment.
Et après, Kessel, c'est quand j'ai eu 13 ans. Ouais. Évidemment, Joseph Kessel, tous ses livres. Inouï me disait, il faut que je fasse ça. Et puis, évidemment, Albert Londres. Et donc, et je me disais, voilà, au plus grand, je serais reporter.
Pourtant, vous avez fait des études d'économie. C'était en tête qu'avec ce bagage d'économiste, vous pourriez aller à la rencontre des autres et du monde.
Alors, c'était un plan assez clair, parce que très, très vite, je me suis rendu compte que j'avais envie d'une seule chose, c'est d'écrire. Ouais. Et en même temps, il fallait que j'aie un métier qui me donne un peu de liberté et qui me permette de comprendre le monde. Donc, je me suis dit, un peu de liberté, ben, ça va être prof, puisque comme ça, j'aurai des vacances un peu plus longues que dans la vie, je gagnerai moins, mais j'aurai un peu plus de vacances que dans d'autres activités. Et puis, je me suis dit, je vais être spécialiste d'économie internationale, et notamment spécialiste des matières premières. Ouais. Pour une raison précise, c'est que moi, j'étais en 47, donc je suis entré dans l'âge à peu près adulte, au moment où les pays du Sud arrivaient à leur indépendance. Et je me suis dit, s'ils gèrent bien leurs matières premières, ils vont réussir leur indépendance, ce qui n'était pas complètement idiot comme prévision. Et donc, je suis devenu spécialiste du café, du cacao, du sucre, de toutes ces questions-là, et voilà.
Donc, cette idée de raconter le monde à travers les matières premières, finalement, elle ne date pas de ces petits précis de mondialisation que vous réalisez depuis une dizaine d'années. Vous aviez déjà ça en tête au moment de faire vos études en étant étudiant.
Mais à 15 ans, j'avais cette idée-là.
C'est fou.
Oui, c'est fou. Ce que disent mes enfants et ou mes proches, c'est que la vie que j'ai menée, au fond, était facile, puisque très très tôt, j'ai su ce que je voulais faire. Et donc, la vie n'est que la réalisation d'un plan qui était prévu 50 ans à l'avance.
Et vous n'avez jamais douté ?
Je savais ce que j'aimais.
Ouais.
Donc j'ai douté 1000 fois de la réalisation de différents plans, mais pas de ce que j'aimais. Et ce que j'aimais, c'est-à-dire d'aller voir de l'autre côté de la colline, aller voir de l'autre côté de la mer. Et puis, vous savez, au fond, j'ai deux moteurs. Le premier moteur, c'est comment ça marche. J'adore démonter tout et puis savoir comment ça marche. Et le deuxième, c'est pourquoi pas. Ouais, alors c'est le nom d'un bateau formidable, de Charcot. Hein,
pourquoi qui a coulé, hein, qui a mal fini.
Oui, mais enfin, entre-temps, il a vu des tas de choses. Ouais. Et d'ailleurs, quand on a été avec Isabelle Autissier en Antarctique, on n'a pas osé jeter l'ancre à l'endroit où était le pourquoi pas, à l'endroit où il avait la première fois hiverné. On avait trop de respect. Donc on était juste à côté. C'est un moment, vraiment, elle comme moi, on était pris par une émotion énorme de ce pourquoi pas de Charcot. Lequel Charcot, c'est quand même une histoire incroyable, parce que c'était le fils donc du grand médecin Charcot, qui était celui qui a inspiré en partie Freud. Donc c'est quand même deux explorations incroyables. Il y en a un, le père Charcot, qui explore l'inconscient, on peut dire, et le fils Charcot qui explore la planète. Donc c'était deux explorations. Vous voyez, j'ai toujours été fasciné par les explorateurs et les héros du temps d'un bivouac, parce que regardez ce qui est intéressant dans le fauteuil sur lequel je suis assis à l'Académie française. Donc avant moi, juste avant moi, il y a Cousteau.
Ouais.
Le commandant Cousteau nous a fait découvrir le monde sous la surface de la mer, ouais. Le monde du silence. Avant lui, il y avait un professeur de psychiatrie, c'était un grand professeur, Jean Delay, qui a fait découvrir des tas de mécanismes de circulation à l'intérieur de la tête, grand psychiatre et inventeur de médicaments. Et puis encore avant, il y avait évidemment la gloire du fauteuil, c'est Pasteur. Donc Pasteur, il nous faisait découvrir le monde de l'infiniment petit. Et puis avant Pasteur, il y avait Littré. Donc Littré, il nous fait découvrir la société des mots, comment on s'accorde les mots.
Qu'est-ce qu'on dira d'Éric Orsenna ?
Et donc qu'il était un amateur de ces gens-là. Quelqu'un qui a été... Je ne suis pas créateur. Je suis seulement un porteur de parole, un raconteur d'histoire, et ce qu'on dit en français avec un peu de mépris, de vulgarisateur. C'est-à-dire, en ce moment, vous voyez, je passe beaucoup plus de temps à l'Académie des sciences, ouais, qu'à l'Académie française. Parce que l'Académie des sciences, je crois que même bien, parce que Ils sont assez fascinés, je crois, par ma gourmandise de savoir. Et ils disent, Éric, c'est rien. Il est quand même d'une ignorance scientifique vertigineuse. Ouais. Mais il travaille comme un fou. Il nous fait relire avant de publier. Et il essaye de rendre la science ouverte, voilà, au plus grand nombre. Donc vous voyez, tous ces gens qui découvrent des mondes. Moi, vous savez, le cœur de ma vie, c'est comprendre et transmettre. Donc je suis un prof, moi. Je ne suis pas un créateur, je suis vraiment un prof. C'est-à-dire, j'adore ça, je fais des livres au fond de prof. Et quand je raconte des histoires, quand je me mets à la place d'une malienne, c'est pour qu'on dise à quel point ce pays du Mali est tellement magnifique et ses populations sont somptueuses d'humanité et de sagesse et de musique.
Et ces petits précis, j'y reviens, avec lesquels vous parcourez le monde pour essayer de comprendre les évolutions de notre société. Comment vous en avez choisi les thèmes ? Il y a donc eu le coton, l'eau, le papier. Pourquoi ces thèmes ?
Mais avant, vous savez, quand je suis arrivé avec un gros roman sur lequel j'avais travaillé 7 ans, et j'arrive voir mon éditeur d'alors, Jean-Marc Roberts, qui nous a quittés bien trop tôt, et il me dit, de quoi ça parle ? Personne ne savait de quoi ça parlait. Et je lui dis, du caoutchouc et des pneumatiques, matières premières. Déjà les matières premières. Ouais. Je racontais la mondialisation du transport. Ouais. Parce que l'histoire du caoutchouc, c'est quand même une histoire de mondialisation. puisque le caoutchouc, d'abord, sauvage, vient du Brésil, et puis les Anglais piquent des graines, les font développer un peu, améliorer notamment la résistance au sud de Londres, dans le jardin botanique de Kew, et puis ils les plantent en Asie du Sud-Est, où ils réussissent à les mettre en sorte de, en plantation. Et donc, c'est des grands basculements comme ça. Donc, c'était déjà des matières premières. Et il me dit, tu crois que ça va intéresser les gens? Et je dis, bah, tu vas voir. Ouais. Et donc, j'ai travaillé, j'ai retravaillé, encore retravaillé. Et comme ça, il y a eu le prix Goncourt. Donc, ouais. Et comment j'ai choisi les thèmes? Parce que c'était quand même très intéressant de raconter l'histoire de notre planète par l'histoire des pneumatiques. Puisqu'on raconte le transport.
Faut
le coton.
Il faut quand même un petit savoir-faire, hein, parce que bah au ouais. départ, dire je vais vous parler des pneumatiques, non. je vais vous parler du coton, il y a beaucoup de gens qui peuvent se dire je ne suis pas sûr que ça va m'intéresser.
Ah ben non, mais les gens ils disent en général d'ailleurs ça ne va pas m'intéresser. Ouais. Et vous savez, quand on a lancé le livre sur le coton, ouais. l'éditeur on a prévu d'imprimer 10 000. Et puis ça a dépassé 200 000 avant le poche. Et ils étaient sciés. Pourquoi? Parce que, vous savez, les gens, ils aiment bien qu'on les emporte. Donc. Et c'est là où j'essaye d'articuler une sorte de passion pour les histoires. Il était une fois. Vous savez, il y a des grands essayistes, c'est pas mon niveau. Je suis pas du tout abstrait, j'ai pas ce sens des systèmes et tout ça. Moi, c'est il était une fois. Il était une fois des personnages, il était une fois des lieux. C'est-à-dire, je raconte l'histoire d'un personnage dans un lieu, et c'est ce personnage dans un lieu qui me raconte une réalité du monde.
Et comment vous préparez vos voyages, vos enquêtes? C'est-à-dire que vous y allez pour vérifier ce que vous avez compris, vous arrivez à partir sans aucun a priori en vous disant « je découvrirai le monde tel qu'il est ». Comment vous vous préparez?
Alors, d'abord, je commence à avoir un réseau énorme. Ouais. Parce qu'il y a le réseau des scientifiques, il y a le réseau des traducteurs, il y a le réseau des marins. Il y a un réseau extraordinairement efficace, c'est le réseau des Bretons. C'est-à-dire que maintenant sur Internet, mais je prends les bottins téléphoniques et je vois des noms bretons dans des endroits complètement perdus. Ouais. Et j'appelle en disant, voilà, vous ne seriez pas breton. Et il dit, il est breton. Alors, en général, ils sont un peu suspicieux. Donc, ils essayent de voir si je m'y retrouve vraiment, si je suis un vrai breton ouais. ou un faux breton. Et donc,
une sorte voilà, d'examen de
oui,
passage.
Un examen de passage. Voilà, donc ils tentent des pièges. Et si je dis par exemple que quelqu'un d'Audierne est un bigoudin, bah il me parle pas. Parce que c'est pas un bigoudin, c'est un capiste. C'est un capiste du Cap Sizun, donc il y a des trucs comme ça.
Ah oui, il faut savoir.
Et
oui.
à Léodard, il faut savoir ce que c'est. Et à Quimper, c'est un glazique, etc. Donc ils sont partout, parce que les Bretons, ils sont partout. C'est-à-dire, j'ai vraiment cette expérience de prendre un avion, de prendre une pirogue, de marcher au coucou, etc. Et vous êtes à l'autre bout de la planète, et à l'autre bout de la planète, vous voyez une cahute complètement abandonnée. Et dans cette cahute complètement abandonnée, vous avez une bouteille de Coca-Cola et un Breton.
Allez, on va prendre la pirogue, l'avion, on est prêt à vous suivre partout, Eric Orsenna, nous poursuivons nos voyages dans vos pas. Le temps d'un bivouac sur France Inter.
À Constantine, de Rio à Santiago, de Ouaga à Malaga, Nicosie à Nairobi, de Mumbai au Népal, Medellin à Nashville, de Lisbonne à Vérone, Borneo à Mexico, je rêve d'ailleurs. Je rêve d'ailleurs inconnus. Je rêve d'ailleurs et d'imprévus.
Oui, notre haut est bien. Ma habibi, fais-je
d'ailleurs, c'était l'Edisseur sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Sombre et silencieuse, depuis plus d'un an, cette usine à papier de l'Ouest canadien a arrêté de tourner. Dans cette région, l'industrie est frappée de plein fouet par la crise des journaux.
On imprimait des quotidiens ici, et malheureusement, la demande est à un niveau historiquement bas. Le résultat, c'est qu'on a cette usine qui est à l'abandon.
À son apogée, l'usine employait 1500 salariés et produisait 700 tonnes de papier journal par jour. Mais c'était avant la crise profonde que traverse la presse.
Il y a deux facteurs qui jouent. La récession, qui est générale, et puis le déclin structurel dont est victime ce marché. Les gens lisent moins, et notamment les journaux.
Nous étions au Canada, à Campbell River, en Colombie-Britannique plus exactement, et avec ce thème du papier, l'un des opus de vos petits précis, Eric Orsena, vos petits précis de mondialisation. C'est vrai que le papier, on imagine que pour l'écrivain que vous êtes, ce sujet a dû avoir un petit supplément d'âme encore, aller s'intéresser à l'avenir, au devenir du papier.
Oui, parce que le papier, c'est mon ami depuis que je suis né, puisque depuis que je sais lire depuis l'âge de 3 ans et demi. Donc c'est mon ami. Donc, mais c'est le support de mes histoires en même temps. Et donc je me suis dit, mais qui c'est au fond cet ami? J'aime bien savoir qui sont mes amis. Et donc j'ai essayé de raconter l'histoire du papier. Et ça m'a entraîné dans des endroits incroyables. Puisque le papier, au fond, il date de 2 siècles avant Jésus-Christ. Ouais. Et sans doute en Chine.
Vous avez vu les plus vieux papiers du
monde ? Donc j'ai vu des très très vieux papiers. Ouais. Et les plus vieux papiers, c'est quoi ? C'est de l'écorce d'arbres, notamment de mûriers broyés. C'est des vieux textiles. C'est des vieux filets de pêche. On broie tout ça. On met de l'eau, puis on retire l'eau. Et puis on a une surface plus ou moins plane sur laquelle on écrit. Parce qu'avant, on écrivait sur des peaux de bêtes ou on écrivait sur des papyrus, c'est-à-dire des plantes, mais là c'est vraiment une sorte de soupe, et donc c'était fascinant. Et alors j'ai découvert cette histoire du papier incroyable, parce que pendant longtemps il n'y a que l'Asie qui fait du papier, et puis les armées arabes avancent jusqu'à Samarcande, et ils remportent une victoire à Samarcande, et ils s'arrêtent là. Étrangement, ils auraient pu aller jusqu'à Pékin, ils s'arrêtent là, et donc ils voient là cette matière très intéressante. Donc, ils prennent les spécialistes de cette matière et puis ils les entraînent chez eux, en Arabie. Et donc, il se trouve que cette matière est passionnante pour deux raisons. D'abord, parce qu'on peut calligraphier. Et là, on est juste au moment où le Coran arrive. On peut donc calligraphier l'écriture sainte. Et en même temps, on peut administrer un très large espace parce que c'est très difficile de gratter sur le papier sans que ça se voit. Alors que sur les peaux de bêtes, ça se voit. Donc, quand vous avez une signature, c'est très dur de faire des faux. Donc, le papier se répand dans tout l'univers arabe. Mais, évidemment, les chrétiens se disent, mais on va l'utiliser aussi parce que c'est quand même beaucoup plus pratique que tout ce qu'on a jusqu'à présent. Sauf que, comme ça sert à l'écriture du Coran, donc le papier, d'une certaine manière, est excommunié. On n'a pas le droit de l'utiliser. Sauf qu'au bout d'un moment, au XIVe siècle, les Italiens disent « il y a du fric à faire », donc ils le font, et puis hop, ça va être l'explosion. Donc, vous voyez, vous avez une fois de plus, du point de vue du papier, un récit du monde. Oui. Très concret, un récit du monde.
Et l'avenir du papier.
Et alors, ce que raconte ce malheureux qui a une usine de papier au Canada, je l'ai vu. Oui. D'abord, il faut savoir dire à nos auditeurs que là, ce qu'il raconte comme endroit du monde, c'est un des endroits du monde les plus beaux qui soient, la Colombie-Britannique, c'est-à-dire la façade pacifique du Canada. Et j'y étais, parce que je suis monté à Vancouver et puis je suis un peu monté, mais c'est une route que je voudrais faire, c'est-à-dire aller de l'Alaska, c'est-à-dire d'Anchorage, et descendre jusqu'à Vancouver, Seattle, Portland et San Francisco, et descendre jusqu'à Los Angeles. C'est d'une beauté incroyable. Imaginez qu'à Vancouver, vous avez un hôtel qui est constitué d'une réception, comme tous les hôtels, mais les chambres, c'est des bateaux. Et donc, vous avez des pontons, et vous avez des chambres qui sont des bateaux. Donc, vous pouvez très bien prendre la chambre 12, et puis aller vous balader pendant toute la journée, et on dit, tiens, la 12 n'est pas encore rentrée. J'adore ça. C'est pas le type de la 12 qui n'est pas rentrée, c'est la chambre elle-même qui n'est pas rentrée. Donc ça, c'est quand même le rêve pour les voyageurs. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé avec le papier? Deux choses. C'est que, d'abord, c'est vrai que les journaux, on lit moins des journaux gigantesques, vous savez, des journaux énormes, épais, de 5 cm d'épaisseur dans toute l'Amérique du Nord. Et puis aussi, on a trouvé des arbres qui poussent beaucoup plus vite, et qui sont les eucalyptus. Parce que c'est des eucalyptus, c'est une espèce qui vient de l'Australie d'abord, qui s'est répandue partout. Et un eucalyptus peut monter à 25 mètres en 5 ans. En 5 ans. Donc, et pour les papiers journaux, on n'a pas besoin d'une grande qualité de papier. Donc, il y a des énormes fabriques, usines de papier, notamment en Amérique latine. Pour vous donner l'ordre de grandeur, une unité de production, au minimum, c'est $1 milliard. Donc, évidemment, les malheureux qui avaient des conifères au nord, ils sont évidemment battus. Ouais. Donc, encore une fois, c'est la mondialisation concrète. Vous voyez, la répartition des choses, c'est la balance des pouvoirs comme ça, et c'est la planète, c'est notre planète.
C'est ce qui est intéressant, évidemment, quand on vous lit, parce qu'il y a cet aspect historique, passionnant des choses. Il y a aussi parfois, et vous ne les mettez pas entre parenthèses, les dérives ou les accidents de la mondialisation.
Mais attendez, par exemple, tous ces gens-là, il y a toute cette grande légende comme ça de toute l'industrie papetière canadienne. Mais comment on transportait les troncs avant de les broyer pour en faire du papier? Par les rivières, flottaient. Et il y avait des gens dont le métier terrible était d'accompagner ces trains de bois qu'on appelait les draveurs. Les draveurs, ils étaient là, le drive, mais c'était francisé. Les draveurs, ils étaient là, extraordinairement dangereux. Et il y a un livre exceptionnel de John Irving qui s'appelle, je crois, La courbe de la Twist River, qui raconte ces histoires de draveurs. Et donc, voilà, vous voyez, toutes ces histoires sont complètement mêlées. C'est le champ du monde.
Le champ du monde. Est-ce qu'il vous inquiète ou est-ce que globalement, vous restez optimiste? Pour l'avoir à ce point parcouru, ce monde, en envoyant la beauté et parfois aussi les excès, les dérives, vous êtes confiant pour l'avenir?
Mais je ne suis pas du tout un naïf de la mondialisation. Je ne suis pas du tout de ceux qui disent « Ah, c'est formidable, tout va bien, etc. » Mais je ne suis pas du tout non plus de ceux qui disent « Qu'est-ce que c'était mieux avant ?» Qu'est-ce que c'était mieux avant? Par exemple, ceux qui disent à Paris, oh là là, qu'est-ce que c'était mieux avant? Mais qui lisent le parfum? Mais c'était la puanteur absolue. C'était une épouvante totale. Il y avait beaucoup moins de forêts à cette époque que maintenant au XVIIIe siècle. Donc, tout ça n'est pas vrai. Non, moi, j'ai des inquiétudes sur un certain nombre de points, des inquiétudes précises. C'est-à-dire que, d'abord, pas sur la planète entière, mais les tensions démographiques dans un certain nombre d'endroits de la planète sont des bombes sanitaires et sociales et militaires. Quand vous voyez qu'au Mali aujourd'hui, la moitié de la population à Bamako, la capitale, a moins de 14 ans et demi, et que le système scolaire est quasiment à terre, que dans beaucoup d'endroits, vous avez 180 élèves par classe le matin et 180 autres l'après-midi, autres, parce qu'il n'y a pas suffisamment. Donc, quelle est la perspective pour tous ces jeunes? Donc, ce n'est pas possible. Donc, si le pourtour de l'Afrique se développe, vous avez des zones, premièrement. Deuxièmement, vous avez l'urbanisation. Imaginez que vous avez aujourd'hui 42 à 44 agglomérations qui dépassent les 10 millions d'habitants. Donc, évidemment, vous avez des tensions, et notamment des tensions en termes de pollution, et puis des tensions en termes d'eau. Et quand je reviens de Chine, j'étais en Chine à la fin du mois de janvier, et j'ai rencontré les plus hautes autorités de Chine, et alors leur projet maintenant, c'est de dériver le fleuve bleu, c'est-à-dire le Yangtze, vers le nord. Pourquoi ? Parce que vous avez un déficit chronique en Chine d'eau. C'est-à-dire il y a 20% de la population mondiale et il y a 8% d'eau seulement. Donc il faut qu'ils aient de l'eau. Et en plus, l'eau est au sud. Donc comment est-ce qu'on va faire? J'en sais rien. Donc vous voyez, vous avez des questions. Donc la question d'eau m'inquiète. La rareté de terre m'inquiète aussi. La question de l'eau pour produire la viande, il faut 13 000 litres d'eau en moyenne pour un kilo de bœuf. Ce qu'on appelle l'eau virtuelle, c'est-à-dire toute l'eau, etc., etc. Donc il y a des questions, mais il y a aussi des réponses. Aussi des réponses en termes d'énergie, il y a une révolution d'énergie inouïe. Et donc on va en finir une bonne fois pour toutes avec le charbon. Parce que le solaire se développe, parce que l'éolien se développe, parce que le biogaz se développe, parce que, etc., tout ce qu'on peut imaginer. Donc vous voyez, à chaque fois, moi j'aime pas les idées générales, mais j'aime la culture générale. C'est-à-dire j'aime les interactions. C'est pour ça que je me sens beaucoup moins économiste que géographe. Vous voyez, j'aime écouter la Terre. Écoutez la Terre. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, la Terre? Et la Terre qu'on ne doit pas maîtriser, on doit être en... Vous savez, il y a une histoire que je trouve formidable qui résume tout. C'est une planète qui parle à une autre planète. Et la première planète dit à la seconde, « Ah, je sais pas ce qui se passe en ce moment, j'ai chaud, j'ai de plus en plus chaud, et puis j'ai des petites bêtes insupportables qui me piquent sans arrêt, qui plongent dans ma peau, etc. » Et la deuxième planète dit, « T'en fais pas, j'ai connu ça. » C'est l'espèce humaine, ça passera. Donc, quand on dit sauver la planète, mais ce n'est pas du tout la question. Ouais. C'est nous qu'il faut sauver. Ouais. Mais la planète, elle s'en fout.
Vous étiez sur les histoires de manque d'eau, de gestion d'eau, de démographie. C'est peut-être ces questions-là qui sont aussi à l'origine de votre attachement au continent africain. Je vous propose de nous y rendre en Afrique en empruntant le fleuve Niger.
Principale source de vie dans ce pays sahélien en proie aux sécheresses, le fleuve Niger est aussi l'artère principale qui relie Koulikoro près de Bamako à la mythique ville de Tombouctou dans le désert. La corne de brume retentit à chaque escale. Depuis les quais, ce sont des dizaines de sacs de riz, de victuailles, des matériaux en tout genre que l'on charge à bord afin de ravitailler les régions enclavées du nord. Durant cette croisière, deux mondes se font face. Il y a ceux qui ne font que passer et ceux qui restent. Chaque étape est une rencontre. Chaque passage, un événement. Un voyage à remonter l'espace et le temps au cœur des us et coutumes de tout un pays. Il y a les bozos, spécialistes de la pêche, les peuls qui s'occupent du bétail, en face les sorailles qui peuplent les rivages au nord du Niger depuis la fondation de leur empire au XIe siècle. Un choc des cultures qui se poursuit à l'intérieur du navire, quelques Saoudiens en mission religieuse, des explorateurs modernes qui font une croisière douce, des déracinés qui reviennent au pays.
Éric Orsenna, vous faites partie de ces explorateurs modernes qui ne font que passer, mais qui retournent en Afrique. Vous l'avez emprunté, ce fleuve Niger. Je sais aussi que vous avez un attrait tout particulier pour les fleuves.
Alors, j'ai emprunté ce fleuve plusieurs fois, puisque avec Joël Calmette, le réalisateur, nous avons fait un film, Le portrait du fleuve Niger. Et c'est une très grande tristesse de ma vie que connaissent tous ceux qui voyagent aujourd'hui, c'est que le monde se ferme. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans la mondialisation, mais il y a de plus en plus d'endroits où on ne peut plus aller. Je ne peux plus aller au Yémen, je ne peux pas aller en Afghanistan. La seule fois où j'étais en Afghanistan, c'était protégé par une escorte en armes. J'étais avec le ministre de la Défense à Kaboul. C'est ça. je l'ai survolé, c'est d'une beauté incroyable. Et puis c'est le dialogue entre le monde grec, Alexandre avait été quasiment jusque-là, et puis c'est tout le monde de l'Asie, du bouddhisme et tout ça, donc c'est un lieu absolument mythique. Et je ne peux plus aller sur le fleuve Niger. C'est-à-dire, quand je vais au Mali, je peux aller à Bamako, et encore protégé, mais je ne peux plus aller à Ségou, je ne peux plus aller à Mopti, sûrement pas à Gao. Mmh. Je ne peux plus aller, alors que je suis resté il y a à peine 10 ans. Je suis resté 2 fois un mois dans ce qu'on appelle la Zawad, c'est-à-dire au nord-est du Mali, à la frontière de l'Algérie et puis de la Libye. Je ne peux plus y aller, parce que je serais pris en otage tout de suite. Ouais. Donc, vous voyez, il y a des tas d'endroits où vous ne pouvez plus aller. Donc, vous ne pouvez plus aller en Somalie, vous ne pouvez plus aller au nord de... Il y a un endroit sublime au nord du Kenya, Lamu, vous ne pouvez plus y aller, parce que vous avez pas mal de chances de vous faire choper. Donc, vous voyez, donc ce monde est violent. Ouais. Violent.
Et on comprend d'autant plus ce regret que vous avez, que vraiment, il y a ce lien particulier avec l'Afrique. Je ne sais pas si vous avez cherché à l'expliquer, si vous le comprenez. En tout cas, ce qui est clair, c'est un peu à la manière d'un fleuve, ce continent africain avec toutes ses cultures irrigue votre œuvre avec de nombreux romans. Vous êtes attaché à ce continent. Vous savez l'expliquer ?
Alors, j'ai réfléchi à ça. Pourquoi j'aime tant l'Afrique et pourquoi j'ai pas décidé d'y habiter ? Et donc, j'aime vraiment l'Afrique et mon autre continent, mon autre patrie, pour les liens qu'il y a en Afrique, pour le tissage. Vous savez, en Afrique, il y a les liens entre les jeunes et les vieux. Il y a pas de jardin parce que c'est la nature elle-même. Vous avez pas, voyez, vous avez pas ces questions-là. Vous avez pas, la ville ouvre directement sur les vivants sont avec les morts. Vous n'avez pas ces coupures. Vous marchez sur le sable, vous marchez moins sur le macadam. Mmh. Donc, vous n'êtes pas séparé entre vous ni séparé du réel par une sorte de glace et d'hygiaphone. Vous communiquer. Et pourquoi j'ai pas décidé d'y habiter, c'est que il y a tellement de liens qu'au bout d'un moment je suis étouffé. Et pourquoi tant d'écrivains africains ont du mal à vivre en Afrique? C'est pas tellement pour des raisons de moindre diffusion, c'est que l'écriture est solitaire, alors que la parole est commune. Donc et on ne fait pas un livre sous l'arbre à palabres. Et celui qui écrit, il est en retrait. Même dans ma famille de petite bourgeoisie, quand j'écrivais, on disait « mais tu n'es pas avec tes frères et sœurs ». Ouais. Tu vois, tu te mets en retrait. Donc, il y a ce lien entre la solitude et la balance. Mais imaginez que je suis arrivé la première fois à Dakar, j'avais 22 ans, j'étais un petit économiste, je venais pour une mission pour essayer de voir la stabilisation du cours de l'arachide. Et puis il y a une réunion officielle, et là j'ai rencontré Senghor, et des liens se sont noués assez rapidement, quasi filiaux. Mmh. Parce que j'étais un passionné de sa poésie.
Une autre façon de rechercher la solitude et de s'éloigner un peu du monde, c'est de prendre la mer. On va faire connaissance avec le navigateur qui se cache derrière Eric Orsena également, dans un instant, dans Le Temps d'un Bivouac.
Thank you. never wish for you to go to roll down that old road. You're making my heart low, lost in that old world. You're the only one I'll ever fall, so won't you come home soon? Come home soon. Won't you come home soon? Won't you come home soon?
C'était Home Soon de Dope Lemon sur France Inter.
Gouverné au 65.
Gouverné au 65. En route au 65.
Bien.
C'est peut-être la dernière fois qu'ils sont à la barre de l'Hermione. Les 78 membres de l'équipage remontent la Charente 4 mois et demi après le début de la traversée.
C'est un rêve de gosse, travailler sur des bateaux comme ça. C'est tout un esprit marin qui s'anime et ouais, donc c'est un rêve de gosse. Si on me demande de repartir demain, ouais, je signe. Il n'y a pas de souci.
On change de vent, brasse la misaine. Largue ton faux bras, Simon! Largue la mûre! On reprend les coudes en même temps! Allez, brasse! On brasse!
Oh, allez, Riz! Oh, Riz! Oh, Riz!
Les départs sont toujours très gais, les retours sont jamais gais. C'est toujours un mélange de bonheur de rentrer, mais aussi un peu de tristesse, puisque c'est la fin d'un voyage. Et la machine à rêve revient dans son écrin, et voilà, la boucle est bouclée. Ce fabuleux rêve et défi qui est né il y a 22 ans.
Un reportage d'interception diffusé sur France Inter consacré à l'Hermione. L'Hermione, c'est cette frégate reconstitution du bateau qui a emmené en son temps Lafayette jusqu'aux États-Unis d'Amérique. Et là encore, vous êtes dans le coup, Eric Orsena. Vous êtes un peu l'un des fondateurs à l'origine de... C'est une histoire superbe dont on a parlé l'été dernier dans le temps d'un bivouac, la reconstitution de cette frégate.
Oui, parce que j'étais avec le maire de Rochefort à l'époque, Jean-Louis Fraud. Et puis, il y avait un ami, un frère aussi, Bénédicte Donnelly, et on longeait ce qu'on appelle une forme de radoub, c'est-à-dire un grand trou dans la terre, pavé, et là où on construisait, où on réparait les bateaux. Et on s'est dit, il n'y a pas de bateau. On s'est dit, on va construire un bateau. Et puis, ça, c'était le soir. Puis, le lendemain, enfin, pas dire, on n'était pas bourré, mais enfin, avec deux, trois verres, et on s'est dit, le lendemain, c'est le lendemain qu'on voit si on a toujours ce rêve-là. Et on s'est dit, on va le construire. Et on a mis 23 ans, avec d'autres qui nous ont rejoints, comme un formidable, formidable constructeur de bateaux dans bois, qui était Raymond Labbé, comme plein d'autres, qui étaient avec des tas d'historiens. Donc, on a lancé cette affaire, on a tout entendu, hein, que c'était pas possible, ouais, qu'elle allait couler, que, etc., pourquoi donner de l'argent à du bois alors qu'il y a des êtres humains qui souffrent, etc. Et on a tellement entraîné de gens. Il y a eu 4 700 000 visites, il y a eu ce voyage inouï. Et je vous assure, un des grands moments de ma vie, c'est quand le bateau est parti, construit, mais sans les mâts. Il est parti au port de commerce, le long de la Corderie Royale. Et quand j'ai retourné à mon hôtel, mais les gens, ils m'ont dit merci. Merci. Parce que c'est vrai qu'au départ, on était trois. Et être remercié pour un rêve, c'est pas mal.
Elles vous ont emmené loin, les histoires que vous racontez, votre père, de frégates, de pirates et de bateaux à voile. C'est inspirant, la mer, pour un écrivain.
Et puis, vous savez, et puis la mer, c'est l'amitié. La mer, c'est l'amitié, parce qu'on ne vous choisit pas par hasard. Et quand Isabelle Autissier m'a fait l'honneur de m'accepter sur son petit bateau de 15 mètres pour aller en Antarctique cette semaine, il fallait que... Alors, elle s'était enseignée, savoir comment j'étais en mer. Mais quand même, elle m'a fait un honneur inouï. Et j'ai des souvenirs avec Isa, formidable. On est au milieu du Drake, en dessous du Cap Horn. Et puis on attend un baston qui va arriver. Et nous, on lit quoi? Du Gilles Lapouge. On lit, je lui lis du Lapouge pendant le quart au milieu de la nuit. Ouais. Donc c'était un moment inouï. L'arrivée comme ça, quand on arrive et qu'on voit le premier iceberg bleu, parce qu'il y a des compressions. Et donc l'oxygène est parti, quand on voit les premières baleines, quand on voit... Enfin, on a 5 ans, quoi. On a 5 ans.
Éric Orsenna et Isabelle Autissier dans un bateau, ça donne quoi? On aimerait bien y être. Ben, on va y être un petit peu, au moins par le son. C'est assez serein, écoutez.
Alors, pour l'instant, moi, je vois la cabane noire. Ça, c'est sûrement la cabane de Nordenskjöld. Et il y a encore, de l'autre côté, 3 autres...
Des tentes, non?
Tentes, ouais, comme des grandes tentes.
On a l'impression des grandes tentes.
Bon, on va aller voir, hein. Ralentis bien. C'est peut-être la mer qui gèle un peu, hein. Ouais, un petit peu à gauche, il y a moins de glace. Et c'est le drapeau argentin.
Ah, c'est le drapeau argentin.
C'est le drapeau argentin.
Alors Isa, dès le début du voyage, tu me disais si on avait la chance de pouvoir aller à Snowville.
Honnêtement, j'y croyais pas.
Non, tu y croyais pas.
Honnêtement, j'y croyais pas parce que franchement,
ça y est.
On a eu un temps de rêve. Hein.
Ça doit vous évoquer quelques souvenirs, Éric Orsenna.
Comme dit Isa, c'était un temps de rêve. On s'est glissé entre les icebergs. On était en plein dans la mer de Weddell et on voit ce personnage magnifique, Nordenskjöld, et on voit là où il a hiverné, et c'était tout à fait bouleversant. Parce qu'il faut que vous vous rendiez compte ce que c'est que cette mer de Weddell. C'est donc des sortes d'icebergs qui dansent très lentement. Parce que l'iceberg, comme chacun sait, il y a un dixième qu'on voit, et puis le dixième, c'est en bas, sous l'eau. Et donc, en fonction de la hauteur, il y a des profondeurs. Et en fonction de la profondeur, on est pris par des courants. Il y a des courants de surface, et puis il y a des courants beaucoup plus profonds. Donc, où vous glissez entre les centres de danse, comme ça, pour pas vous faire écraser, parce que le bateau, il est ridicule. Et le retour a été chaud, bouillant, parce que le vent s'est levé, donc les packs de glace se sont concentrés, et puis il y avait du brouillard. Et donc, on a été là, et honnêtement, il y a eu une nuit, je me suis dit, on va rester bloqué là, quoi. Et
c'était un grand moment. C'était un rêve de jeunesse aussi, ce voyage.
Bah, oui. Franchement, vous savez, j'avais été déjà 3 fois naviguer dans l'archipel du Cap Horn. Ouais. 3 fois. Et puis, c'était un défi personnel en me disant, est-ce que tu oseras aller au sud? Parce que l'archipel du Cap Horn, il y a un baston, enfin une tempête qui arrive. Bon, au bout de 3 heures, on se récupère. Alors que le Drake, c'est l'endroit le plus violent de la Terre, le courant le plus violent, et il y a des dépressions qui s'enchaînent. Et donc, à un moment donné, je me suis dit, bah, allons-y, d'autant plus que c'était un des meilleurs marins du monde, Isabelle Autissier, qui me faisait l'honneur de m'accueillir à son bord. Donc, c'est vrai que c'est une fierté de... Vous savez, j'ai été très ami de Marguerite Yourcenar, formidable écrivain. Je lui demandais pourquoi elle voyageait tant. Et elle dit, au fond, quelque chose qui... Bien, on va, un jour ou l'autre, quitter cette cellule qui est notre planète. Et la cellule, il faut l'explorer. Et quand je vois les globes, il y a des endroits du monde où je me devais d'aller avant de quitter cette terre. Et l'Antarctique, c'est un endroit. L'Arctique aussi. Je vais cet été au Spitzberg. Et donc, c'est aussi un rêve. Et il y a d'autres endroits où il faut que j'aille. Je veux aller le long de la ligne de changement de date aussi. Je veux aller tout à fait au nord. J'y étais, mais il y avait des tempêtes, j'ai pas pu y aller. Mais remonter vers l'extrême nord du détroit de Bering. Il y a vraiment des endroits, il faut y aller, la terre m'appelle.
La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas blasé et il y a encore des terres qui vous appellent à découvrir.
Mais c'est l'appel du bivouac.
Exactement. Merci Éric Orsenna d'avoir répondu à l'appel du temps d'un bivouac. Je rappelle le titre de votre dernier livre, La géopolitique du moustique, chez Fayard. Mais évidemment, tous les ouvrages que nous avons mentionnés tout au long de notre discussion, on va les mettre en ligne sur la page du temps d'un bivouac pour les personnes qui souhaitent se les procurer. Je vous remercie, c'était un vrai plaisir de vous recevoir, Éric Orsenna.
C'est moi, vous savez, vous dites vous allez les mettre en ligne, c'est le passage de la ligne. Ça se fête. Ça se fête le bivouac.
Alors on débouche le champagne.
Ah ben.
Et nous ne manquons pas non plus de mettre en ligne votre livre La Fontaine, une école buissonnière aux éditions Stock, qui paraîtra dans 2 jours, livre qui reprend vos chroniques estivales diffusées à 7h54 et 13h20 sur France Inter. Allez, dans un instant, on part manger au Japon avec nos explorateurs des cuisines du monde, Marine Mandrila et Louis Martin.
A song about a bad girl.
something that happened to me a long time ago. Everybody was telling me how the little girl was running around. But I had a head of my own, and I just wouldn't listen to nobody. My father, he told me, my mother sat down and cried. Said, son, this woman will break your heart, and then she'll put you down. That's when I told Mama these words, Lord, how much.
Girl, c'était Limousine sur France Inter, le temps d'un bivouac.
Tiens, qu'est-ce que c'est que ça va?
À la soupe!
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 Bonjour Marine Mandrila et Louis Martin.
Bonjour. Bonjour.
Alors vous êtes tous les deux nos explorateurs culinaires. Vous avez effectué un tour du monde avec l'idée d'utiliser la cuisine comme moyen d'entrer en contact avec les habitants des pays par lesquels vous êtes passés. Chaque semaine, tous les lundis, on découvre un nouveau pays, des nouvelles recettes avec vous. Et aujourd'hui, c'est au Japon que l'on s'en va déguster. On connaît la légendaire pudeur des Japonais. Avez-vous réussi à vous immiscer dans les intérieurs des Japonais en allant manger chez eux?
Alors ça n'a pas été si simple. On était à la fois très excités et très anxieux quand on est arrivé à Tokyo. Très excités parce que le Japon, je pense que c'était un des pays, voire le pays qu'on attendait le plus quand on l'a mis sur l'itinéraire de notre tour du monde. Et anxieux parce qu'on savait que les Japonais n'avaient pas l'habitude de recevoir chez eux, même leur famille et même leurs meilleurs amis. C'est un pays qui est très organisé avec une distinction très marquée entre la sphère privée et la sphère publique. Et donc, quand on voit ses amis, on les voit à l'extérieur au restaurant. Et d'autant plus que les Tokyoïtes habitent dans des tout petits appartements, donc ils n'ont pas forcément la place de bien recevoir chez eux. Beaucoup de personnes avaient même essayé de nous décourager aller au Japon, nous disant qu'on n'arriverait jamais à aller manger chez l'habitant. Donc on a dû redoubler d'efforts, redoubler de créativité pour contacter des amis, d'amis qui connaissaient des familles japonaises qui voudraient bien nous accueillir. Et finalement, on a réussi à partager des super repas à Tokyo et dans tout le Japon.
Vous avez donc eu ce privilège rare d'aller chez des Japonais pour essayer d'en savoir un peu plus sur la manière dont ils vivent. Comme lors de votre premier repas à Tokyo, chez Yuka, une mère de famille tellement passionnée de cuisine qu'elle a traversé la moitié du globe pour se perfectionner dans les cuisines d'un grand hôtel parisien.
J'ai travaillé dans les cuisines de l'hôtel Ritz à Paris. Oui, après l'université, après mes études.
Au Ritz ?
Oui, oui, à l'hôtel Ritz.
T'as fait la cuisine au Ritz ?
Oui, seulement pendant 5 semaines. J'aime cuisiner, vraiment.
Donc Yuka, effectivement, c'était une cuisinière hors pair. Et ce qui nous a vraiment frappé lors de ce premier repas à Tokyo, c'était vraiment l'attention apportée à tous les détails dans la décoration des intérieurs, mais aussi dans le choix des ingrédients. Yoshiyuki, son mari, et Yuka avaient fait venir par la poste spécialement pour nous des fruits de mer de l'île d'Hokkaido dans le nord du pays. Et on a senti vraiment que rien n'était laissé au hasard, même la disposition des plats sur la table qui respectait certaines règles pour que tout soit beau et harmonieux. Et on était d'autant plus stressés parce qu'on a vraiment senti que le moment du repas était extrêmement codifié, avec une étiquette omniprésente. Et on marchait un peu sur des œufs, même si on avait lu pas mal de choses et on connaissait un petit peu les règles de base, comme jamais servir à boire, mais servir d'abord son voisin pour montrer qu'on a soif, et ou ne pas planter ses baguettes dans son bol de riz. Mais voilà, on mangeait un peu par mimétisme pour être sûr de pas faire d'impair.
Ah oui, d'accord. Et alors, qu'est-ce qu'on mange à la maison au Japon?
Alors on mange une cuisine qui est résolument tournée vers la mer. On a découvert que la consommation de viande avait été très longtemps interdite au Japon. On a aussi découvert un fait marquant, c'est qu'au Japon, on mange chez soi quelque chose de très différent de ce qu'on trouve au restaurant, parce que quand on va au restaurant, c'est justement pour goûter à des plats qu'on n'est pas en mesure de faire chez soi. Donc on va dans des restaurants spécialisés avec des cuisiniers qui ont des techniques de cuisson, des techniques de préparation qui sont quasiment considérées comme un art culinaire.
Donc si on va au restaurant japonais en France, on ne connaît pas la cuisine japonaise, hein?
Absolument.
Alors vous avez donc pu rapporter plein de recettes simples et délicieuses, notamment la salade de pommes de terre de Miwa, une japonaise mariée à un moine bouddhiste que vous avez rencontré dans la campagne tokyoïte.
Exactement, qui est l'une de nos recettes préférées et encore une fois très simple et super estivale. Donc la salade de pommes de terre japonaise. Alors pour 4 personnes, on prend 5 pommes de terre à salade, un oignon rouge, un concombre, 3 tranches de jambon blanc, 2 cuillères à soupe de mayonnaise ou plus à son goût, 1 cuillère à soupe de moutarde à l'ancienne, 2 œufs et du sel et du poivre. Alors on dispose les pommes de terre dans une casserole remplie d'eau froide, qu'on porte à ébullition et qu'on laisse cuire 30 à 40 minutes. On fait cuire les œufs environ 10 minutes, on les écale et on les coupe en fines tranches. On coupe l'oignon rouge en fines lamelles, on coupe le concombre pareil en fines tranches. On laisse égoutter un petit peu avec du papier absorbant. On coupe le jambon en petits dés et une fois épluché et refroidi, on écrase les pommes de terre dans un saladier. On sèle et poivre, on ajoute la moutarde à l'ancienne, on mélange bien à l'aide d'une cuillère en bois. On ajoute les petits oignons, le jambon, les œufs, les concombres et la mayonnaise et on déguste bien frais.
Ouais, et puis ça a l'air simple à faire, donc ça donne vraiment envie. On peut retrouver votre voyage culinaire dans votre livre « Very Food Trip » aux éditions de La Martinière. Et on peut retrouver cette recette précisément sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac. Merci Marine Mandrila et Louis Martin et à la semaine prochaine.
Merci beaucoup.
Merci.
Nous sommes sauvés, le monde existe, le soleil brille et il y a aussi des oiseaux. Ah, la vie est belle, nous verrons tout cela un jour. En avant la musique!
«
Demain, à 16h, nous nous rendrons dans un territoire immense, grand comme 6 fois la France, situé en Sibérie orientale, la Yakoutie, avec un archéologue qui tente de retracer l'histoire de la population locale. Et puis à 17h, nous partirons à la découverte des médecines d'ailleurs, avec le médecin urgentiste Bernard Fontanil. Et puis après le flash, vous avez rendez-vous avec Nelly Caprielian et son Mac de l'été. À demain donc pour de nouvelles aventures.